information. Merci pour votre fidélité.
Bonsoir à toutes et à tous. Élisée Moupati devant ce micro. Bienvenue sur Sporama, votre émission sportive hebdomadaire sur la voie de l'Amérique. Ce soir, nous allons parler du CHAN au Cameroun qui a souri au Maroc, vainqueur du Mali en finale à Yaoundé. Élection du président de la CAF et Ahmad plus que jamais isolé. Et puis, mondial des clubs de football au Qatar. Al Ahly duquel joue actuellement le Bayern de Munich pour une place en finale. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants en direct de Columbus dans l'Ohio. Nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simbo Yamba Yamba de retour à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosuru. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Bienvenue à tous. Le championnat d'Afrique des Nations de football a rendu son verdict ce dimanche à Yaoundé au Cameroun avec le sacre du Maroc. Les Lions de l'Atlas, tenants du titre, ont battu les Aigles du Mali 2-0 en finale de ce tournoi continental réservé aux joueurs locaux. L'équipe entraînée par Houssine Amouta devient la première sélection à conserver son titre dans cette compétition. Le technicien marocain se réjouit de cette performance.
Moi, je l'avais déclaré que nous étions arrivés avec l'ambition, la détermination et de jouer pour cette coupe. Donc, nous étions présents ici, très ambitieux, déterminés pour conserver le titre. Donc, chose qui a été faite, ça a été un petit peu, moi je dirais, difficile, surtout en finale, parce que nous avons trouvé une équipe du Mali très organisée et très ambitieuse aussi. Donc, ça s'est joué sur des petits détails.
Amine Birouk, grosse performance du Maroc tout au long du tournoi. Un sacre logique, mais que ce fut dur.
Il y a un dicton du football qui dit que les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. C'est ce qu'a fait l'équipe du Maroc lors d'une rencontre cadenassée face au Mali ce dimanche à Yaoundé. Les nerfs étaient à fleur de peau et visiblement la peur de perdre était prédominante lors de cette confrontation. L'expérience des Marocains, leur habileté sur coup de pied arrêté à partir de la 70e minute ont été nécessaires avec des buts de Bouftini et d'Ayoub Kaabi, meilleur buteur de la précédente édition. Le Maroc garde son bien. C'est la première nation africaine à conserver un titre du CHAN après 6 éditions. Les Poulains de Houssine Amouta ont dominé de bout en bout la compétition avec le meilleur buteur Soufiane Rahimi avec 5 réalisations, la meilleure attaque, la deuxième meilleure défense et certainement un des plus beaux footballs lors de cette compétition. Un CHAN complètement réussi par les autorités camerounaises avec le seul bémol, les cas positifs et surtout les tests Covid qui ont été l'objet de contestations de plusieurs délégations.
Merci Amine. On reviendra dans un instant sur cette affaire de tests au Covid-19. Le Mali s'est pourtant créé les meilleures occasions de but sans les concrétiser. Et pour la deuxième fois, le pays rate la coupe en 6 éditions. Cette fois, l'équipe a perdu sur des détails. Explique Noum Diané, l'entraîneur des Aigles.
Oui, on n'a pas pu gagner aujourd'hui parce qu'en réalité, on voulait quand même tout faire pour ramener la coupe au Mali. Et on avait en face une très bonne équipe du Maroc. Je pense que c'est la meilleure équipe du tournoi. Vu le nombre de buts qu'ils ont marqué, le Maroc a marqué, c'était pas facile, on le savait. Mais il fallait aussi prendre des dispositions par rapport à ça. Je pense qu'on a perdu ce match-là sur des détails. 2 buts coup sur balle arrêtée.
Valdo, une finale perdue sur des détails. Les Maliens sans complexe méritaient mieux.
Pas du tout, Élisée. Ces Maliens ont été braves et ténaces pour en arriver déjà à cette finale. Mais hélas, sans face, le champion sortant avait tout son appétit pour conserver ses titres bien mérités au finish pour le Maroc. Manque de réussite en première période et déjà, lorsqu'un match de surcroît une finale a comme homme du match un gardien de but, allez-y comprendre que ce dernier a été obligé de sortir son grand jeu pour préserver sa cage et permettre à sa sélection de l'emporter sur l'adversaire. Les Mali restent toutefois une très belle sélection avec une force de caractère très impressionnante, mais difficile de digérer cette défaite. La deuxième en finale après celle perdue en 2016 face à la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une victoire qui pourra essuyer et faire oublier ces deux finales perdues. Rendez-vous donc à la prochaine édition pour ces Maliens.
Lawal, à l'heure du bilan, le Cameroun a réussi plus ou moins l'organisation de cette compétition.
Oui, Élisée, organisation plus que réussie, pourrait-on dire. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits couacs qui n'ont pas véritablement empiété sur la qualité de l'organisation. En dehors, vous le disiez tantôt, des tests à polémique par rapport au Covid. Le reste, on a compris que les Camerounais ont perdu du temps, c'est vrai, dans l'organisation de cette compétition, mais ont fini par montrer qu'ils étaient capables maintenant de faire une organisation parfaite par rapport à ce CHAN et envisager, améliorer ce qui n'a pas été assez bon cette fois-ci pour la CAN qui
vient. Avec 24 équipes.
Oui, on espère que c'est une répétition déjà générale et par rapport à ça, on va voir un peu améliorer ce qui doit être amélioré pour que la CAN puisse être mieux réussi que le CHAN, parce que là, on aurait véritablement dit merci aux Camerounais parce qu'on avait peur que ça ne réussisse pas, mais ils ont montré qu'ils étaient en mesure de réussir une organisation aussi importante que le CHAN et espérons qu'ils vont en faire de même pour la CAN.
On y vient. Ce CHAN a été marqué par des soupçons de manipulation de tests de COVID-19 qui ont ciblé l'organisation camerounaise de la compétition. Le cas de la RD Congo qui a empêché Florent Ibengué de pouvoir compter sur tout son groupe. VOA Afrique a essayé d'en savoir plus avec notre correspondant sur place à Yaoundé, Emmanuel Jules Tapo.
C'est l'entraîneur de la RDC, Florent Ibengué, qui a fait enfler la polémique sur les tests du COVID-19 lors du CHAN 2020.
Je ne souffrais pas de COVID. On m'a déclaré Covid, toute notre délégation a subi cela. J'ai des joueurs qui n'ont pas pu jouer, alors que finalement ils n'étaient pas Covid. C'est pas beau du tout, c'est à la limite criminelle.
La RDC a finalement porté plainte contre le Cameroun. Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la CAF, chargé du développement du football.
Cette affaire est avec la commission, certainement la commission indépendante et disciplinaire. Donc, moi, je ne peux pas dire plus.
Deux types de tests COVID-19 ont été pratiqués durant le CHAN. L'un dit rapide, résultat au bout de 21 minutes, et l'autre dit test PCR pour les délégations, les officiers de la CAF et certains journalistes. Le test PCR plus fiable livre ses résultats en 48 heures. Mais deux journalistes ayant requis l'anonymat ont confié à VOA Afrique avoir été testés positifs le 16 janvier et 72 heures plus tard, déclarés non porteurs du virus. Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la CAF, chargé du développement de football.
We cannot have a medical committee on
La commission médicale ne peut pas être composée que de Camerounais. Nous avons des ressortissants de la Tunisie, de la Zambie, du Ghana inclus, mais ici au Cameroun, ce sont des officiers de la commission médicale du COVID-19 qui supervisent cette affaire.
Quelques jours après le début du CHAN, nous avons rencontré le professeur Ndam Ditoyap, président de la commission médicale du CHAN 2020.
Ceux qui ont un test négatif sont conduits dans leur hôtel. Et au troisième jour, il y a donc à ce moment-là un test PCR qui est fait pour s'assurer que le patient qui arrivait n'était pas dans une phase où le test peut être faussement négatif.
Sollicité plus tard, au plus fort de la controverse sur les tests COVID-19, les responsables de la commission médicale locale du CHAN n'ont pas souhaité parler à la presse. Mais 48 heures avant la fin du championnat d'Afrique des Nations, la Confédération africaine de football a confié que 163 cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés après 3 semaines de compétition. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Amédine, pourra-t-on dire que c'est la tache noire de la compétition?
Tout à fait, Élisée, la tache noire de CHAN est sans aucun doute l'histoire de la manipulation des tests de COVID-19. Et le cas du coach des Léopards locaux du Congo, Florent Ibengué, prouve que des choses pas du tout catholiques se sont passées, car le jeune technicien congolais a été déclaré positif, puis négatif, puis positif une nouvelle fois. C'est pourquoi les Congolais n'ont pas hésité à clamer haut et fort qu'il y avait de la manipulation concernant ces tests. D'ailleurs, on avait déclaré 13 cas de coronavirus dans la délégation congolaise avant leur match contre le pays organisateur qui est le Cameroun, et ce nombre a été réduit à 3. Cela a semé le doute dans la tête des observateurs, en tout cas, chassé Élisée, que cette histoire de manipulation de tests COVID ne grandit pas le Cameroun qui est le pays organisateur, Élisée.
Amine, c'est une affaire montée en épingle, surtout après que le cabinet qui gère les tests au COVID-19 soit accusé de falsification de résultats.
Tout à fait, Élisée. Il y a eu un gros scandale quelques heures avant le match entre le Cameroun et la RDC pour le compte des quarts de finale du CHAN. Et donc, cette affaire avec 13 joueurs de la RDC, positifs, entre guillemets, la récusation de la délégation congolaise et puis 10 cas qui disparaissent de cette liste. Et donc, beaucoup de suspicions, beaucoup de pression sur l'équipe de la RDC qui n'a pas pu préparer sereinement cette confrontation. Il y a eu aussi les cas des joueurs guinéens avec récusation de la part de la délégation guinéenne. Autant dire que dans l'aspect de l'organisation, c'est peut-être le seul flop. Ça concerne ces tests, ça concerne aussi des journalistes qui étaient positifs la veille, négatifs le lendemain. Autant dire que c'est la seule chose qui n'ait pas été fiable pendant l'organisation de ce CHAN 2021.
On vient vers vous, Valdo. Vous étiez à Yaoundé. La RD Congo a vraiment subi jusqu'en quart de finale.
Élisée, ce qui, d'une part, a beaucoup pesé dans l'élimination de la RDC dans cette compétition, puisque l'incertitude avait pris de place dans la tanière, puisque la veille de chaque match, il fallait s'attendre à des cas de Covid-19. 12 cas signalés lors de 3 premiers matchs. La RDC s'est quand même qualifiée en quart de finale et cette fois-là, c'est 13 autres joueurs qui ont été positif à la Covid-19 la veille du match contre le Cameroun. Voilà qui a révolté côté RDC jusqu'à exiger une contre-expertise, ce qui a été obtenu par la CAF. Au finish, seuls 2 cas seulement sur les 13 étaient positifs, allez-y comprendre. Et aujourd'hui, après la victoire contre la RDC, le Cameroun a perdu lourdement devant le Maroc en match de demi-finale 4-0, battu encore par la Guinée 2-0 en match comptant pour la 3e place.
Lawal, ça montre une fois encore la légèreté dont fait montre la CAF dans une situation qui a déjà secoué les interclubs et même les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.
Oui, Élisée, c'est simplement triste et qu'on en arrive encore à ça, alors qu'on aurait pu faire jurisprudence avec ce qui s'était passé entre-temps avec les interclubs.
Mais et la CAF, le Gabon qui a subi cela en Gambie, on se rappelle bien.
Et maintenant, la CAF n'a pas tiré leçon de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, est-ce que le cabinet chargé des tests n'a pas un compte à rendre au comité exécutif de la CAF? Parce que là, il y a comme de la complaisance dans ce qui se fait. Et si on peut arriver à falsifier les tests jusqu'à ce niveau-là, je ne sais pas ce qui pourrait arriver quand on va démarrer la CAN. C'est simplement triste pour la CAF qu'on en soit encore arrivé là. Mais ça n'a pas pour autant terni l'image, la qualité du jeu qu'on a observé sur le terrain, parce qu'on a vu que les joueurs, même s'ils sont des locaux, ont montré véritablement qu'ils ont quelque chose à prouver et ils l'ont prouvé de fort belle manière.
Cameroun. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, de retour aux commandes, a assisté à sa première réunion à Yaoundé. Et grande confusion sur sa nouvelle candidature. La commission de gouvernance de la CAF avait déclaré son président éligible pour un nouveau mandat à la tête de l'instance où il a été provisoirement réinstallé avant que son comité exécutif remette en cause cette décision. La FIFA va trancher. Alors, Amine, finalement, la CAF enchaîne des psychodrames et elle est entrée dans une nouvelle zone de turbulence.
Ce qui est certain, c'est que nous sommes partis vers un long feuilleton, un bras de fer entre un comité exécutif rebelle et un président remis en selle provisoirement par le tribunal arbitral du sport, du moins jusqu'à la séance du TAS du 2 mars prochain, qui pourrait soit l'absoudre, soit le condamner définitivement. Ce samedi, il y a eu donc la réunion du comité exécutif, non sans remous, avec Ahmed Ahmed qui a pu compter, entre guillemets, ses alliés. Et ils ne sont pas nombreux. Visiblement, le président de la CAF a été lâché. Et s'il pouvait se représenter, visiblement, il ne compterait pas beaucoup d'alliés lors de l'élection du 12 mars prochain. Aujourd'hui, c'est un président affaibli face à des dirigeants du comité exécutif en rébellion.
Valdo, il y a désormais très peu de chances de voir Ahmad briguer sa propre succession à la tête du foot africain.
Et difficile de tirer au clair la position d'Ahmad Ahmad, qui certes veut bien faire partie de la course pour le poste qu'il a occupé pendant presque les temps d'un mandat à la tête de la CAF. Pour la Fédération internationale de football association, les Malgaches ne devaient pas être dans la course puisqu'ils sont frappés déjà par cette sanction qui vient d'être débloquée par le tribunal arbitral au sport. Remettre le sort d'Ahmad Ahmad entre les mains de la FIFA, c'est lui dire carrément d'oublier la possibilité de se représenter. Donc, comme vous le dites, Élisée, les Malgaches n'ont que très peu de chances d'y croire encore. Toutefois, ayant déjà remporté une bataille au TAS, il y a lieu de rester positif malgré ces très peu de chances qui est palpable.
Amédine, tout porte à croire que la FIFA a toujours une main mise sur la CAF.
Ah oui, Élisée, c'est un secret de polichinelle. La FIFA a toujours une main mise sur la Confédération africaine de football. Et l'affaire Ahmad Ahmad vient une nouvelle fois de le prouver, car maintenant on ne sait plus à quelle instance voir la confusion est totale, car la commission gouvernance de la Confédération africaine de football a déjà déclaré que le Malgache est désormais éligible maintenant, une décision que le comité exécutif remet en cause. C'est vraiment triste, Élisée, car c'est ce même comité exécutif qui avait donné raison au comité d'urgence sur la commission de gouvernance à propos des candidatures. Maintenant, le sort du Malgache Ahmad Ahmad est entre les mains de la FIFA, Élisée.
Lawal, dans le camp d'Ahmad, c'est la stupeur en attendant le verdict du TAS prévu le 2 mars prochain. Il y a très peu de chances que la commission de contrôle de la FIFA l'autorise à se représenter à la présidence de la CAF.
Non, Élisée, c'est vrai qu'il y a de la stupeur dans le camp d'Ahmad Ahmad, mais la question qu'on doit se poser, comment est-ce que, au niveau de la CAF, on ne peut pas de façon objective, de façon libre et démocratique gérer les choses et qu'on attende que ce soit la FIFA qui valide une candidature d'une instance qui est certes affiliée à la CAF, mais qui ne doit peut-être pas être l'appendice de la FIFA.
Ça montre qu'il y a une main derrière.
Non, on a bien, on a nettement l'impression qu'il y a, comme vous le dites, une main qui souhaiterait voir Ahmad Ahmad couler, parce que d'abord, on l'a suspendu. On a laissé le Mauritanien continuer. On l'a réhabilité et c'est son comité exécutif qui aujourd'hui est en train de lui créer encore des ennuis. Ahmad Ahmad doit comprendre que véritablement le mieux pour lui c'est peut-être de laisser les choses et de laisser continuer de ce désordre là. Je mets ça entre griffes pour que il n'a qu'à sortir par la grande porte. Et si on lui interdit de briguer un second mandat, c'est un désaveu carrément pour lui, sa personne, parce que ça montre clairement qu'il n'est pas facile de remplacer Issa Hayatou, qui aujourd'hui, somme toute, est président d'honneur de cette confédération. Ouais. Donc, il est évident qu'on sent que Ahmad Ahmad est devenu un élément gênant, qu'il faut éliminer à tout prix.
Des voix s'élèvent déjà et lui aurait conseillé de se retirer de lui-même en attendant la décision du TAS.
Justement, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a qu'à se retirer tranquillement, retourner au pays, voir ce qu'il peut faire pour booster le foot malgache pour qu'il puisse briller davantage et s'imposer davantage à travers le monde.
On parle à présent de la CAN des moins de 17 ans. Enfin, la zone A de l'UFOA joue son tournoi de qualification au Sénégal. Amédine Sy, et ça va prendre fin le 13 février prochain à Thiès.
Tout à fait, Élisée. Cette compétition qui a débuté le 5 prendra fin le 13. Le Sénégal, pays hôte, est logé dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Mauritanie. Dans l'autre poule, on retrouve la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le Mali. Sachez que le Sénégal qui avait organisé le tournoi U20 avait raté le coche en s'inclinant en finale face à la Gambie. Et les poulains de Malik Daf qui entraînent les U17 feront tout pour décrocher la qualification pour ce tournoi des U17. En tout cas, ils ont démarré cette compétition de fort belle manière en dominant la Gambie sur le score de 4-2. Je rappelle, Élisée, que le vainqueur de ce tournoi se qualifiera pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en catégorie U17. Élisée.
Valdo, il ne reste que la zone UNIFAC pour connaître tous les qualifiés pour la phase finale de cette CAN des moins de 17 ans.
Il ne faut pas surtout compter sur la RDC pour abriter ces tournois, faute d'infrastructures d'une part, et avec ces problèmes de gestion de Covid-19 de l'autre, ça risque d'être très compliqué, le couvre-feu étant encore de mise en plus démocratique du Congo. Bref, pour plus d'assurance et de confiance, la Guinée équatoriale sera la destination par excellence, malgré que ça risque de paraître trop, mais ces pays continuent de faire ses preuves avec les autres catégories d'âge. Pour une nouvelle fois, la Guinée équatoriale peut bien servir et faciliter à la CAF l'organisation de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans au niveau de la zone UNIFAC, à moins qu'un autre pays puisse solliciter cette organisation tenant compte de la pandémie.
On prend la direction de l'océan Indien. Amin Birouk, du côté des Comores. Sans surprise, Saïd Ali Saïd Atouman a été porté à la tête de la Fédération de football qui retrouve désormais un fonctionnement classique après près de 2 ans de crise.
Et c'est une excellente nouvelle pour les Comores qui demeurent une des nations émergentes sur le continent africain. On se souvient que malgré cette période provisoire de comité de normalisation, on a eu une sélection nationale à peu près performante qui a failli se qualifier pour la CAN 2019, qui est en passe de réaliser un exploit dans la CAN 2022 avec notamment l'Égypte dans son groupe. Et malgré le fait d'avoir cet épouvantail du football africain, les Comores semblent tenir le coup. Voilà en tout cas une bonne nouvelle, celle d'avoir un président de fédération, Saïd Ali Saïd Otman, qui va certainement avoir du pain sur la planche, pouvoir maintenir une sélection compétitive, travailler au niveau des catégories inférieures, structurer une fédération et surtout mettre à l'avant un pays émergent du football.
Lawal, c'est la seule candidature retenue par la commission électorale et sur 63 délégués, 62 lui ont accordé leur confiance. On peut dire que la crise est terminée.
La crise est virtuellement terminée. La seule voix qui n'a pas pu obtenir est déjà un problème pour le règlement définitif de cette crise parce que il est seul candidat. S'il y a, c'est vrai que c'est un plébiscite, on pourrait le dire, mais une seule voix discordante, ça porte les gemmes de la crise. On espère que le cauchemar est derrière, loin derrière, et qu'il doit tout faire pour que cette voix discordante puisse rallier le groupe afin que, dans l'unanimité, dans une sorte de réconciliation définitive, qu'on puisse conduire les affaires du foot des Comores et que le cauchemar va complètement rester derrière et que le foot comorien va avancer.
Voilà qui est clair. Football toujours avec le Mondial des clubs et pour la première fois depuis 2013. L'Afrique sera présente en demi-finale du Mondial des clubs, vainqueur de la dernière Ligue des champions africaine. Al Ahly a mis un terme à cette terrible série en venant à bout d'Al Douaï, champion du Qatar, sur le score de 1-0 à Doha en quart de finale. Alors, Amin Birouk, Al Ahly brise la malédiction et jouera le Bayern de Munich en demi-finale.
C'est vrai que depuis l'exploit du Raja de Casablanca, on n'a pas eu d'épopée de clubs africains. Depuis 2013, on a eu des désillusions en cascade. Et la victoire d'El Ahly face au champion du Qatar, Al-Duhail, 1-0. Et la fin de cette malédiction, El Ahly, qui a dominé la rencontre, notamment en première mi-temps, qui a su se procurer de très nombreuses occasions. Il y a eu le but de Shahat. Il y a eu le 2-0 qui a été refusé pour un hors-jeu microscopique par la VAR, et puis le sursaut d'orgueil des Qataris, mais les Égyptiens ont su faire le dos rond parce qu'ils ont beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. Maintenant, ils franchissent ce palier des quarts de finale. Ils auront droit maintenant à un match de gala où ils ne partent pas favoris, où ils affrontent le véritable ogre du football européen mondial, le Bayern Munich, avec très peu de certitude, très peu de chances de se qualifier, mais s'ils jouent les coups à fond, ils pourront faire une rencontre très honorable face aux champions d'Europe et probablement face aux champions du monde.
Justement, Amédine, les Égyptiens jouent actuellement gros face à ces Allemands.
Oui, Élisée, comme vous le savez, le Bayern de Munich est un très, très, très gros morceau. Mais dans un match de football, tout reste possible. Et les champions d'Afrique qui sont en quête d'exploit vont se donner à fond pour rentrer dans l'histoire, car depuis 2013, une équipe africaine n'a jamais réussi à atteindre ce niveau de la compétition et les Égyptiens feront tout pour imiter le tout puissant Mazembe qui avait joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Une mission difficile, mais pas impossible, Élisée.
Sporama qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Présentation, Élisée Oumpati. On se donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne.